Europe 1.
Europe 1.
14h, 15h.
On de la raconte.
Bonjour à tous. Dans la catégorie des grands aventuriers, j'accueille aujourd'hui un homme absolument unique et exceptionnel qui s'appelle Christian Clos et que je salue. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes franco-suisse, je le précise parce que vous avez un petit accent.
Il faut le dire.
Je vais raconter dans un instant votre dernière aventure tirée de votre livre qui vient de sortir chez Robert Laffont, Au cœur des extrêmes. Il s'agit en vérité de 4 expéditions que vous avez réalisées il y a presque 2 ans en les enchaînant les unes derrière les autres. 1 mois dans le désert, suivi d'un mois en Patagonie, puis 1 mois en Amazonie et pour finir 1 mois en Sibérie. Et il y avait là-dedans bien sûr une part d'aventure pure, mais pas que. Vous avez voulu, en enchaînant ces 4 expéditions, mesurer la capacité du corps humain à s'adapter, c'est-à-dire à passer du chaud au froid et du sec à l'humide. Le fait que vous soyez là devant moi est un miracle. Vous avez failli mourir à plusieurs reprises. Je vais raconter tout ça. J'ai écrit cette histoire avec Pierre Anquetin. La réalisation est comme toujours signée Céline Lebras.
14h, 15h,
on de la raconte sur Europe 1.
Alors, voilà le défi que s'est fixé Christian. Ah, il va la torturer, sa carcasse. Il va enchaîner 4 expéditions de 1 mois chacune, ok ? En s'arrêtant 15 jours, grand max entre deux. Il va commencer par un désert brûlant, en Iran, et enchaîner avec des canaux frigorifiés, en Patagonie. Ensuite, retour au chaud mais humide, en Amazonie, et pour finir, 1 mois d'hiver glacé, en Sibérie. Sympa, non ? Comment est-ce que sa carcasse va encaisser le choc ? C'est ça, l'enjeu de cette folie. Le corps de Christian va passer de plus 60 degrés à moins 60 degrés, de 2% d'humidité à 100% d'humidité. Bon, c'est un baroudeur, et il est dans la force de l'âge, il a 44 ans. Mais tout de même, est-ce que ça va passer? Est-ce que le corps va tenir? Eh ben, on va voir. Et nous voilà donc en plein été au sud-est de l'Iran, aux portes du désert de Dasht-e-Lut, l'un des déserts les plus torrides du monde. En moyenne à l'ombre, 57 degrés. Et à cette saison, n'espérez pas une goutte de pluie. Un décor lunaire, tout rouge, de terre desséchée et de rochers sculptés par les vents. Et vous voyez la camionnette là-bas? Vous voyez le type qui en descend? Ah ben c'est lui, c'est Christian Clos. Il est en train de se faire déposer en voiture au point de départ de sa folle expédition.
Allez, bonne chance, Fais attention. Ouais, t'en fais pas. Allez, file. À dans 1 mois.
Ah, il y a quelque chose que je ne vous ai pas encore dit. Il n'a pas le droit d'être là. Il n'a pas d'autorisation. La police iranienne lui a formellement interdit le voyage. Avec des arguments,
Trop chaud. Et puis il y a des terroristes et des trafiquants. Et puis des mines.
Eh ben, il y va quand même. En Iran. Il est gonflé. Et le voilà donc qui s'enfonce dans le désert en tirant une petite charrette. Et oui, il part crapahuter 1 mois sous le cagnard. Il lui faut de l'eau, 100 litres, 3 litres par jour. Et puis de la nourriture, 1 kilo minimum tous les jours, égale 30 kilos. Et enfin, puisqu'il a décidé de mesurer les réactions de son corps, un peu de matériel. Mais à part ça, pas de téléphone, ni de balise Argos, rien. Car il veut aussi mesurer sa capacité à réagir seul, par tous les temps. Et donc il tire une petite charrette en bois montée sur des pneus de moto. Et il s'engage droit vers le sud pour 400 kilomètres dans le désert. Le thermomètre affiche 56 degrés à l'ombre, au soleil 70 degrés, et un vent brûlant se met à souffler. La journée, c'est l'enfer. Alors Christian décide de ne marcher que le matin et le soir, et au milieu, d'attendre. Couché à l'ombre, sous une toile tendue par 4 piquets, immobile comme un lézard, en veillant à ne pas s'endormir au soleil. Vous savez pourquoi ? Dans le cerveau, il y a des cellules graisseuses qu'on appelle les cellules gliades. À 80 degrés, elles fondent comme du beurre dans une poêle à frire. Un soir, Christian vient de finir sa soupe lyophilisée, il s'apprête à aller se coucher, et là, dans le noir, il voit deux yeux fluorescents. C'est un puma. À un moment, il disparaît, mais cette nuit-là, Christian ne dort que d'un œil. Nous voici au 12e jour de sa première expédition. Christian constate que son corps s'habitue. Il souffre moins. Et d'ailleurs, il y a un signe qui ne trompe pas, il commence à admirer les couchers de soleil. Parce que jusque-là, il était tellement occupé à survivre, il ne les voyait même pas. Christian est presque à mi-parcours. Il est 10h30, il vient de se boire un thé et il s'allonge sous la toile pour un petit somme. 10 minutes plus tard, un bruit de moteur. Christian se redresse. C'est un 4x4 Pajero rouge. La police ? Des trafiquants, des terroristes. Quoi qu'il en soit, il est trop tard pour s'enfuir. Alors il attrape son couteau suisse et il attend. Le 4x4 s'arrête à quelques mètres de lui. Quatre hommes en descendent, le doigt sur la gâchette de leur mitraillette.
Europe 1, on de la traconte.
Je vous raconte aujourd'hui une aventure incroyable. Un défi que se lance en 2016 l'explorateur Christian Clot. Enchaîner coup sur coup, 4 expéditions d'un mois dans 4 milieux les plus extrêmes de la planète pour voir comment réagit son corps et son mental. Une histoire qu'il raconte dans un livre qui vient de paraître chez Robert Laffont, Au cœur des extrêmes. La première expédition l'amène clandestinement, sans autorisation, dans le désert brûlant de Dashtelut. En Iran. Une moyenne de 57 degrés à l'ombre. Nous étions à mi-parcours au moment où déboule un 4x4 avec 4 hommes armés. Le chef s'avance. Christian connaît 3 mots en farsi, il se lance.
Sober ! Bonjour ! T'es américain ? Ah non, 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 pas américain, français, français, pas américain. Que fais-tu là ? Je traverse le désert à pied. It's an expedition, un challenge sportif.
Le chef commence à fouiner dans le chariot. Il y a des cartes et de la technologie. C'est un espion. Christian tente alors son passeport avec son visa en bonne et due forme et un mot qu'il a écrit au cas où on le retrouverait inanimé ou mort. Je m'appelle Christian Clot, je suis franco-suisse, je me suis lancé le défi sportif de traverser le désert du Lut. Veuillez contacter un tel et un tel. En lisant ça, d'un coup le chef se détend.
Ok.
Ces hommes baissent leur mitraillette.
Je garde ton passeport. Tu descends pas dans le sud. Interdit. Trop dangereux. Je te laisse 3 jours pour rentrer à Kerman, au nord. Et je te rendrai ton passeport. À Kerman.
Bon.
Bon, d'accord.
Et là, les 4 types grimpent dans leur 4x4.
Passe au sud, hein. T'as entendu, sinon tu meurs. Bye bye.
Ils s'en tirent bien, hein. Et d'accord, il n'ira pas au sud, il va couper par l'ouest. Et au bout de 3 jours, 180 kilomètres à tirer sa charrette dans le désert, il arrive à Kerman, épuisé. C'est la fin de son expédition. Tant pis, il arrête avec 11 jours d'avance, mais il ne s'en sort pas si mal. S'il récupère son passeport. Le lendemain, après une bonne nuit dans un petit hôtel, il sort dans la rue pour prendre un café. Il fait 10 mètres. Et là déboule le 4x4 rouge, pile devant lui. Et le chef lui tend son passeport, avec un petit signe de la tête, l'air de dire « chapeau ». Et le 4x4 disparaît. Et c'est la fin de la première expédition, retour en France pour une batterie d'examens. D'abord à Paris, à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière de la Pitié-Salpêtrière, IRM, prise de sang, puis au CHU de Caen, et pour terminer, examen physiologique et cardiologique à Neuchâtel en Suisse. Et après, il se repose un peu, et il repart. Il vient de cramer dans le désert, il s'embarque pour le froid humide des fjords de Patagonie, au sud du Chili. Et le voilà donc à Puerto Natales, dans ce qu'on appelle la Patagonie marine. Ce sont des centaines d'îles collées côte à côte qui forment comme un labyrinthe de canaux marins. La météo, exécrable. Froid, humide, une pluie continue. Et Christian s'engage dans ce dédale en canoë-kayak pour un mois. Il s'est préparé un petit périple de 450 km à travers les fjords jusqu'au détroit de Magellan. Et là, il veut rejoindre Punta Arenas. Dans quel état d'esprit est-il? Eh bien, il est heureux, figurez-vous. Il est amoureux de la Patagonie marine qu'il connaît. Les falaises immenses, le ciel gris-bleu tourmenté et ces petits icebergs qu'on appelle les tempanos, dont il faut se méfier, parce que poussés par les courants, ils peuvent fracasser le kayak. Et arrive la première tempête, des trombes d'eau et de neige. Impossible d'avancer. Alors il trouve un coin protégé et il y installe son campement. Le thermomètre indique moins 7, mais avec le vent et l'humidité, ça doit faire dans les moins 20 ressentis. Et là, il met son casque et il décompresse. Après deux jours, le calme revient et Christian peut repartir. Les fjords sont des labyrinthes. On ne sait jamais s'il faut prendre à gauche ou s'il faut prendre à droite. Et donc pour voir, Christian a la bonne idée de grimper sur un rocher. De quoi 4 mètres de haut. Et il s'accroche à un tronc d'arbre. Et v'lan, l'arbre cède. Et bim, il dégringole. Et il finit 4 mètres plus bas sur le dos. Et l'arbre lui tombe dessus. Et il se fêle une côte. Et ça, il va le traîner jusqu'au bout. Ça fait mal, une côte fêlée. Le voilà dans le détroit de Magellan, qui est la porte d'entrée dans l'océan Pacifique, où il est accueilli par un groupe de dauphins. La mer est bleue nuit. Le courant tire tranquillement le kayak. On pourrait se croire au paradis. On aurait tort. Et d'ailleurs, Christian a un très mauvais pressentiment. La musique de l'eau a changé. Devant lui, à 300 mètres, l'eau se met à clapoter, puis à gronder. Et là déboule une énorme vague qui charrie des morceaux de glace de toute taille et se crée une sorte de tourbillon, un vortex qui aspire inexorablement le kayak. C'est un phénomène très connu en Patagonie. On appelle ça un angostura. C'est un piège mortel. Il va crever là. Il donne de grands coups de rame. Il encourage son kayak.
Tiens bon, putain! Tiens bon! On va sortir de là!
Et là, un choc à l'arrière et un autre à l'avant. Le kayak est pris en tenaille entre deux gros glaçons et il chavire. Et Christian tombe dans l'eau glacée. Et là, un énorme glaçon l'assomme par derrière. Il perd conscience. C'est fini! Il va mourir! Noyé! Broyé! Englouti! Mais secoué comme un pantin, il se réveille. Il va vers le kayak, il veut l'attraper, il lui glisse dans les doigts. C'est le combat de sa vie. Il l'agrippe à nouveau, il se hisse dessus, il rame, il atteint la rive. Il est sauvé. Il installe sa tente, il se déshabille entièrement, il se glisse dans son sac de couchage, grelottant, et il s'endort tout de suite. Quand il se réveille, il est perclus de douleur. Mais rien de cassé. Et le kayak non plus. Alors il va attendre que ce monstre d'angostura se calme un peu.
Europe 1, on de la traconte.
Je vous raconte aujourd'hui le défi que se lance en 2016 l'explorateur Christian Clot. Enchaîner coup sur coup, 4 expéditions d'un mois dans 4 milieux les plus extrêmes de la planète. Il veut voir comment va réagir son corps et son mental. Une histoire qu'il raconte dans un livre qui vient de paraître chez Robert Laffont, Au cœur des extrêmes. Je vous ai raconté sa première expédition dans le désert torride du Dashtelut en Iran. Et nous étions au beau milieu de la deuxième expédition dans les fjords glacés et humides de la Patagonie marine au sud du Chili. Christian vient d'échapper à la mort après que son kayak ait chaviré dans une tempête. Il lui reste 13 jours avant la fin de l'expédition patagonienne. Et le voilà reparti, dans la douleur. Heureusement, 3 otaries viennent lui rendre visite. Saut périlleux, pirouette, piqué. Elle lui redonne le moral. Et il arrive face au détroit de Magellan. Le passage entre le Pacifique et l'Atlantique. Et c'est par là qu'il veut rejoindre Punta Arena. Mais ça va pas être possible. L'entrée du détroit est démontée. Elle est impraticable. Une houle déchaînée venue du Pacifique s'engouffre à l'intérieur. Alors il attend 2 jours. En vain. Et là, il décide de faire demi-tour pour trouver une autre route. Et donc, il remonte tout le canal qu'il vient de descendre. Et il débouche sur le grand fjord de Skiring. Et là, le vent devient complètement fou. Des rafales à décorner un bœuf. Et à un moment, boum ! Un coup de vent soulève le kayak et Christian se retrouve à l'eau. Et le kayak est emporté par la houle et il s'éloigne de lui. C'est peut-être cela, mon destin. Restez là. Me laisser prendre par ces eaux qui s'évertuent à m'attirer. C'est un bel endroit pour mourir. Je gagnerai le droit d'être un albatros. Mais avec la rage de vivre, il se met à nager et il attrape son kayak. Il est sauvé. Et entre 2 tempêtes, il atteint l'autre bout du fjord. Et le 30e jour de son expédition, il trouve une immense plaine. Il voit des fermes, il voit des gens et il accoste.
Hola! Hola! Soy Cristian! ¿Qué tal?
Il demande à téléphoner à Paris. Il n'a plus qu'à attendre qu'on vienne le chercher. Je ne parviens pas à imaginer que dans moins de 15 jours, je suis censé repartir en Amazonie. Je m'en sens parfaitement incapable. Voilà au départ de sa 3e expédition, à Manaus, au nord-ouest du Brésil, aux portes de l'Amazonie. Taux d'humidité, 100%. 40 degrés en moyenne, le choc thermique. Son idée est de relier, à pied et en raft, 2 rivières d'un immense parc naturel, le parc Jau, 300 km dans la forêt vierge. Il gonfle son raft portable et vogue la galère. Et pendant 3 jours, tout va bien. Il longe la berge, tranquillement. Et là, du coin de l'œil, il voit que ça bouge sur la terre. Un caïman qui se jette à l'eau sous le raft, pile au moment où il passe. Un coup de mâchoire et pshht, le raft se dégonfle. Et Christian finit en pâté pour caïman. Mais ouf, rien ne se passe. Au bout de 3 jours, fini la croisière, il faut couper par la forêt. À pied, à la machette, avec un barda de 60 kilos sur le dos. Eh oui, le raft, plus un hamac pour dormir, plus une bâche, plus tout le matériel scientifique et la nourriture. Ça pèse un âne mort. Donc, il pose son sac, il taille son chemin dans la végétation à coups de machette, et puis il revient chercher son sac, et ainsi de suite. Et pour éviter de tourner en rond, il marque son chemin comme le petit poussé, avec de petits rubans rouges et blancs. Je vous l'ai dit, il fait plus de 40 degrés. Mais avec l'humidité, la température ressentie est proche de 75 degrés. La brûlure de l'air trempé se répand dans mon corps à chaque respiration, coule sur ma peau, bouche mes narines en brouillant mon regard. Son cerveau souffre. Il n'est pas assez refroidi. Alors du coup, Christian s'oblige à faire quelques exercices mentaux, juste pour vérifier que sa cervelle marche encore.
4 plus 2 plus 8 égale 14.
Putain, une seconde. Je suis pas très frais, hein. Mais bon, ça va. Quand vient le soir, il tend son hamac, il fait ses relevés scientifiques, mais il ne dort que d'un œil. Et il a bien raison, parce qu'un matin, il se réveille, il s'apprête à poser pied par terre. Une tarentule, juste en dessous, immobile, énorme, l'air d'attendre quelque chose. Il la chasse comme il peut, et depuis chaque matin, en se levant, il passe une bonne demi-heure à inspecter son campement. Ce soir, au milieu de la forêt amazonienne, c'est Noël, figurez-vous. 24 décembre 2016. Et là, il a un petit coup de mou. Il se sent loin, seul. Sa famille et ses amis lui manquent. Il a tellement envie de parler qu'il parle à son hamac, ou à son raft, à voix haute. Ça fait presque 10 jours qu'il pleut, sans s'arrêter. Ma chair s'est ramollie, flétrie presque partout, plus encore aux pieds. Il macère toute la journée, les chairs profondes sont peu à peu atteintes. Avantage, la pluie fait grossir les rivières, et donc Christian peut utiliser plus souvent son raft. Il avance plus vite, et au 27e jour, la forêt s'éclaircit, le ciel s'ouvre, et il débouche sur le Rio Negro, un fleuve énorme de 4 km de large. Il ne lui reste plus que 90 km à parcourir. Il arrive pile dans les temps à destination, le 3 janvier 2017. Il rentre à Paris pour ses batteries habituelles d'examen. Et après, eh bien, nouveau choc thermique. C'est le froid de Sibérie qui l'attend.
On de la raconte.
Je vous raconte aujourd'hui une aventure extraordinaire dans laquelle se lance en 2016 l'explorateur Christian Clot. Il veut enchaîner 4 expéditions d'un mois dans 4 milieux qui sont les plus extrêmes de la planète pour voir comment réagit son corps et comment réagit son mental. Il raconte tout ça dans un livre qui vient de paraître chez Robert Laffont, Au cœur des extrêmes, et il sera avec moi dans un instant. Je vous ai raconté sa première expédition dans le désert brûlant du Dashtelut en Iran. Sa deuxième expédition dans les fjords glacés et humides de Patagonie au Chili. Il vient d'achever sa troisième expédition au cœur de l'Amazonie brésilienne. Et on retrouve Christian 15 jours plus tard en Sibérie, plus précisément en Yakoutie, à 1500 km au nord du lac Baïkal. C'est l'endroit le plus froid de la planète après l'Antarctique. Et pas de peau, dès qu'il pose le pied dans la neige, il tombe malade. Une fièvre carabinée, impossible d'avaler quoi que ce soit, impossible aussi de dormir. Il est au bout du rouleau. Mais pas question de caner, il se requinque à coups d'antibiotiques et c'est reparti. Et cette fois, c'est à ski qu'il se lance, en tirant un traîneau derrière lui. Au passage du dernier village, un gars du coin le met en garde.
Une vague de froid arrive. Très dangereux, aller dans montagne. Et puis, rivière dangereuse, hein, eau très chaude. Dessus, glace craquée. Si tu tombes, t'es mort, hein. Ok. Ok, je fais attention.
Car vous avez compris que Christian, en général, n'en fait qu'à sa tête. Il franchit les premières montagnes. Et maintenant, il glisse sur la fameuse rivière gelée, la Toumara. Au 7e jour, une vague de froid s'abat sur toute la région, moins 60 degrés. Mes voies respiratoires sont plantées de couteaux mouvants. Mon cœur veut lâcher prise et mon cerveau tourne au ralenti. Une lumière rouge clignote dans ma tête, accompagnée d'un bruit de sirène annonçant un pronostic vital engagé. Cette nuit-là, il ne dort pas. Il dit que c'est la pire nuit de sa vie. Au matin, un rayon de soleil fait remonter un peu la température de 10 degrés, moins 50. Sur ses skis, Christian chante à plein poumon.
Let the sunshine, let the sunshine in, the sun shining.
La vague de froid dure une douzaine de jours. Un matin au réveil, Christian ouvre sa tente. Devant lui, un petit oiseau tout blanc, tout soyeux, qui gazouille par moins 56 degrés. Un autre jour, c'est un loup qui pointe sa truffe à l'orée d'un bois. Un gros loup blanc de Sibérie. Il lui jette un coup d'œil et il replonge dans la forêt. Il ne reste plus à Christian que quelques jours à tenir. Mais la rivière Toumara donne des signes de faiblesse. C'est une rivière très particulière. Elle est parfois alimentée par des courants d'eau chaude. Et même très chaude, 30 degrés en profondeur. Et ça, c'est un coup à faire craquer la glace. Christian est au 26e jour de sa dernière expédition. Il en a plein les bottes. En toute logique, il faudrait attendre que la glace se consolide. Mais tant pis, il tente sa chance. Il se lance à toute vitesse sur la glace ramollie. Il essaye de se faire le plus léger possible. Et ça passe, ça passe, ça passe. Et puis d'un coup, ça casse, crac, il tombe à l'eau. Et là, le problème, ça n'est pas l'eau, elle est à 25 degrés. Le problème, c'est quand il sort. À moins 50, il va se transformer en statue de glace. Il va geler sur pied. Il sort du trou. Et là, il se met à courir. Courir avec ses skis aux pieds. Ses vêtements se mettent à geler. Ses mouvements se ralentissent. Il sait qu'il y a une cabane de pêcheurs pas loin. Il est passé devant tout à l'heure. La porte est ouverte. Il se rue à l'intérieur. Il arrache ses vêtements gelés. Il enfile des vêtements secs. Et il se glisse dans son sac de couchage. Il allume son réchaud. Il se fait un thé et deux bouillottes. Il est sauvé. Et le 30e jour de son dernier périple, il tombe sur une route. Il arrive à un village et il appelle Paris.
Allô ? C'est moi ! Je suis arrivé !
Une aventure qui interroge les capacités d'adaptation humaine. Celle de Christian Clot. Il répondra aux questions de Christophe Ondelat dans un instant, juste après un petit détour par la planète Beatles sur Europe 1.
Shoot. Shoot. Shoot.
Girls sur Europe 1 avec Come Together. On retrouve tout de suite Christophe Ondelat et son explorateur de l'extrême pour un témoignage de ce voyage dantesque qui semble surhumain et qui nous emmène jusqu'à 15h.
Europe 1, Ondelat raconte.
Je vous ai raconté aujourd'hui la dernière aventure de l'explorateur franco-suisse Christian Clot. 4 expéditions, en fait, enchaînées les unes derrière les autres, que vous racontez, Christian, dans un livre qui vient de paraître chez Robert Laffont, qui s'appelle « Au cœur des extrêmes ». Je voudrais qu'on commence par le désert du Dasht-e-Lut en Iran. Vous l'avez choisi parce que c'est le désert le plus rude de la planète. C'est oui. Un four.
C'est un des déserts, c'est le désert le plus chaud actuellement. Depuis 10 ans, il a les constantes les plus élevées, un des plus secs. On a des 2 à 5% d'humidité en journée, ce qui veut dire que c'est très faible. En gros, toute l'humidité du corps, elle cherche à sortir dans l'air pour alimenter l'air.
Donc vous buvez des litres et des litres toute la journée?
Oui, j'ai 7 litres d'eau par jour.
7. Non, parce que j'ai dit tout à l'heure vous embarquez 300 litres, mais en vérité, il y a des points d'approvisionnement. Hein.
Voilà, alors comme je peux pas tirer tout, c'est la seule étape où j'ai fait ça. On a déposé 100 litres d'eau, au mieux, parce que j'ai déjà 160 kilos à tirer et que ce serait difficile d'en tirer plus.
Et donc, vous buvez combien de litres par jour?
J'ai environ 7 litres par jour avec lesquels je dois tout faire. Donc évidemment, je me lave pas beaucoup. C'est principalement pour la boisson et pour préparer les repas.
L'eau, il faut en boire en continu. Sinon, vous vous déshydratez.
Alors, il faut boire en continu, quoique. Durant la journée, la température est tellement extrême que ce que je bois se transforme immédiatement en vapeur. Donc, elle n'a pas le temps d'alimenter.
Pas dans votre bouche, quand même, c'est-à-dire.
Alors, non, mais ça va tout de suite transpirer, que ça va s'évaporer immédiatement du corps, donc ça n'a pas le temps d'hydrater mon corps. Donc, cette eau-là, je la perds. Elle me fait du bien, un petit peu, mais si je bois trop et que j'ai pas assez d'eau pour la nuit, elle me sert à rien. Donc, je bois très peu la journée, et je vais vraiment m'hydrater dans les heures fraîches de nuit, qui sont à 30 degrés environ.
Donc là, glou 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 glou, vous pouvez boire.
Là, je
me
réveille toutes les heures pour pouvoir boire et bien réhydrater mon corps pour que quand je vais redémarrer la journée, il soit prêt à le faire.
Les 15 premiers jours, vous ne voyez pas la beauté des couchers de soleil. Qu'est-ce qui se passe?
Alors, pas pendant les 15 premiers jours, mais pendant les 7-8 premiers jours, je suis tellement envahi, c'est tellement dur, c'est tellement violent ces conditions que la seule pensée que j'ai, c'est ne craque pas, tiens bon. C'est lutter contre la douleur, c'est lutter contre la peur, c'est lutter contre tout ce qui peut m'arriver. Et là, je suis tellement focalisé, on peut presque comparer ça à un effet tunnel. C'est un biais cognitif qui fait qu'à un moment donné, on n'est plus capable de voir autre chose qu'un seul élément. Et là, je suis en plein dedans. Et effectivement, je ne vois plus rien d'autre.
Et c'est quelque chose qui vous était déjà arrivé, ça? Parce que ça fait longtemps que vous baroudez, vous êtes un explorateur depuis que vous avez 20 ans.
Oui, ça fait un petit moment, et j'ai déjà connu des choses terribles, mais je n'avais jamais connu cette incapacité à m'adapter et à comprendre le milieu. Là, j'ai poussé quelque chose qui va trop loin. Je m'étais pas attendu à ce que des températures comme ça, on a connu des 40 degrés, des fois on va même sur la plage à Saint-Tropez en plein midi, quand on est en plein cagnard, il peut faire des 40 degrés. Donc on pense qu'on sait ce que c'est. On se rend pas compte qu'en réalité, là je vais 40 degrés à l'ombre, en réalité je vais 58 degrés à l'ombre. Ça n'a rien à voir et chaque degré est une torture supplémentaire.
Quand vous arrivez en Patagonie, est-ce que la chaleur que vous avez emmagasinée en Iran vous est utile pour affronter le froid et l'humidité? Ou est-ce qu'au contraire c'est un handicap?
Non, on aimerait bien pouvoir fonctionner comme une pile qu'on recharge et qui se décharge. Malheureusement non, le corps il raisonne pas comme ça, le cerveau encore moins. Donc on a, au contraire, ça peut plutôt être un handicap. C'est-à-dire que le corps il s'est préparé à pouvoir résister à une certaine température qui est très chaude. Et là tout d'un coup on lui dit, tout ce que t'as mis en place mon gars, ça sert à rien, on fait exactement l'opposé. Donc il est soumis à quelque chose qu'il ne comprend pas très bien.
Il y a un temps d'adaptation là?
Oui, la Patagonie m'a surpris parce que, et je dirais, c'est là qu'on voit peut-être qu'on est transformé par notre propre imaginaire des choses. C'est l'endroit que je connais le mieux. J'ai déjà fait des expéditions régulièrement dans les canaux marins de Patagonie. Donc je pense que je suis à peu près adapté à ce milieu-là. J'y vais en confiance.
Oui.
Et c'est un milieu qui va me lancer un défi que j'imagine pas, de par les vents, de par le froid, et surtout, c'est ça le plus compliqué, c'est la variabilité. En une seule journée, des dizaines de changements de climat, de température, de violence qui surviennent, on sait jamais ce qui va arriver. Ça, pour le cerveau, c'est quelque chose qui est terrifiant parce qu'il est incapable de se projeter vers l'avant.
Mais ce qui est intéressant, c'est est-ce que c'est parce que vous arrivez dans le désert iranien à 60 degrés que c'est plus dur pour vous dans cette région que vous connaissez ?
A priori pas. Justement, on a choisi de faire cette succession pour voir effectivement la succession de changements, mais on pense qu'il n'y a pas forcément une influence directe, à part la fatigue peut-être de l'un à l'autre. Cela dit, effectivement, c'est un changement. Et je suis quand même influencé par le fait que mon cerveau s'était préparé à quelque chose et qu'il vit quelque chose de différent. Donc oui, c'est ce qu'on essaie de comprendre. Comment est-ce que le cerveau est capable de se réaffecter, de se réadapter, de trouver des solutions alors qu'il est dans un système totalement différent de ce qu'il avait imaginé.
Le double tourbillon, la langostura dans lequel vous manquez franchement de laisser votre peau, vous êtes un miraculé sur ce coup-là. Vous commettez des fautes qui sont dues à votre corps, à votre cerveau à...
Assurément, puisque langostura, c'est quelque chose que je connais. Ça existe en Patagonie à plusieurs endroits. C'est des étroitures avec beaucoup de profondeur, donc ça crée des tourbillons. Je sais ce que c'est. Et l'endroit où j'arrive en kayak, c'est l'identification du lieu aurait dû m'indiquer tout de suite, attention Christian, t'es arrivé à un langostura. Et je le vois pas.
Parce que le cerveau est congelé.
Parce que je suis trop fatigué sans doute, parce que le cerveau est en train de penser à autre chose, parce qu'il est affecté à d'autres tâches et que sans doute l'épuisement qu'il subit par rapport à tout ce qui s'est passé jusque-là l'empêche de complètement analyser la situation avec acuité.
Europe 1, on de la traconte.
Je vous ai raconté aujourd'hui la dernière aventure de l'explorateur franco-suisse Christian Clos. 4 expéditions enchaînées les unes derrière les autres, racontées dans un livre qui vient de paraître chez Robert Laffont, Au cœur des extrêmes. 1 mois donc dans le désert iranien, 1 mois dans les canaux marins de Patagonie, 1 mois en Amazonie brésilienne et pour finir 1 mois en Sibérie. Je n'ai pas eu le temps de raconter ces examens que vous faites tous les soirs parce qu'une fois que vous avez marché, skié, etc. toute cette journée, vous passez combien de temps le soir à ces examens physiologiques qui sont des relevés pour vos recherches?
Je mets environ 2 heures par jour travail scientifique. L'idée du projet adaptation, c'est vraiment ça. C'est de se servir de ces milieux extrêmes comme des accélérateurs du changement pour voir comment on est capable de s'adapter. Et pour la toute première fois, on ne fait pas ça seulement sur le corps et sur le cœur, sur les poumons. On fait ça sur le cerveau, non pas psychologiquement, mais physiologiquement. Comment se transforme le cerveau humain face à des conditions comme ça?
Mais vous n'avez pas d'IRM avec vous pour vous faire un IRM sur place.
Malheureusement, c'est là le truc incroyable, c'est qu'avec toutes nos technologies d'aujourd'hui, on est toujours incapable de voir le cerveau fonctionner en situation réelle.
Au milieu de la Sibérie.
On utilise des électrocéphalogrammes, on utilise des systèmes qui voient l'oxygène.
Vous avez tout ça? Vous avez un électrocéphalogramme?
On a des choses comme ça, exactement. Ouais. Mais par contre, le vrai cerveau, celui qu'on va en profondeur, c'est l'IRM qui le montre. Donc pour ça, juste avant et juste après chaque traversée, je passe des IRM qui permettent effectivement de comparer les deux moments, de voir ce qui a changé, ce qui a augmenté, ce qui a baissé, et puis ce qu'on fait sur le terrain pendant les 2 heures par jour va permettre d'expliquer en partie pourquoi on voit ces changements.
Alors par exemple, vous avalez tous les jours une petite capsule qui prend à la fois votre température et un certain nombre de variables de votre système digestif.
C'est ça, on a une capsule qui va permettre de donner la température centrale. C'est très nouveau là aussi et c'est fondamental parce que tout corps vivant a une température centrale. C'est la première chose qui existait d'un corps depuis les bactéries. Donc c'est très robuste. Donc la moindre variation de 0,1 degré d'une température centrale donne une information. Mmh. Donc ça, on a aussi des systèmes qui voient les battements cardiaques, mais le rythme qu'il y a entre chaque battement, pas simplement le rythme cardiaque, on voit le rythme pulmonaire, on voit plein de choses, et donc l'activité cérébrale. Mmh. Et ça, c'est ce qu'on appelle les études intégratives. Ça permet de voir l'ensemble d'un système fonctionner. C'est fabuleux de voir ça.
Mais vous faites aussi des prises de sang.
Des prises de sang, des prises d'urine, des prises de cheveux.
Mais vous analysez, parce que vous ne pouvez pas ramener les échantillons.
Alors malheureusement, c'est très difficile de conserver des échantillons. En l'occurrence, on utilise des buvards dans lesquels on va encapsuler le sang qui permettent de les préserver et de pouvoir l'analyser au retour. Pour les prochaines expéditions, on va développer des outils qui permettront d'analyser le sang sur place, parce qu'il se dégrade un tout petit peu même dans les buvards.
En Sibérie, le matériel, je crois, ne fonctionne pas. Donc vous retrouvez une feuille de papier, un crayon.
Voilà, il y a à moins 60 degrés, les ordinateurs, toutes les batteries, ça laisse un peu encore à désirer. Donc on utilise la bonne vieille méthode, papier, pas stylo, hein, parce que l'on gèle, et crayon.
Ouais. Est-ce que la chaleur d'Amazonie vous aide à supporter le froid de Sibérie? Toujours pas.
Toujours pas, malheureusement. Toujours, on aimerait bien. Non, par contre, là où va m'aider l'Amazonie, c'est que j'entre dans un milieu qui me fait très peur. C'est peut-être le milieu qui m'inquiète le plus parce que c'est le milieu que je connais le moins. C'est le milieu fermé.
Les bestioles.
Et de réaliser finalement qu'on arrive très bien à s'y adapter, que les choses se passent bien, que la vie est possible, va me donner aussi, chaque fois qu'on dépasse une peur, on renforce nos capacités comme un muscle qu'on formerait dans le cerveau. Donc on est mieux capable ensuite d'aller affronter quelque chose de nouveau. Et ça, c'est peut-être la vraie leçon de tout ça. N'hésitez pas à affronter vos peurs parce que vous apprenez à vous renforcer pour vous adapter.
Qu'est-ce que vous préférez, le chaud ou le froid ? Votre nature, c'est le froid, j'ai l'impression.
Moi, ma nature, c'est le froid. Mais après avoir connu les moins 60 degrés, donc moins 55 dans la tente en Sibérie, je dois dire que j'avais jamais connu aussi une froid. Telle douleur dans le froid. Mais néanmoins, je pense quand même que le froid, on est des animaux, en tant qu'humains, plus faits pour aller vers le froid que vers le très chaud. On a des systèmes adaptatifs mieux faits pour ça. D'ailleurs, on peut aussi s'adapter en mettant des vêtements. Donc le froid reste plus fonctionnellement adaptable, mais là on parle de froids qui sont tellement extrêmes et que j'espère on connaîtra jamais.
Mais vous dites quand même à un moment donné, pronostic vital engagé quand vous êtes à moins 60 en Sibérie.
Oui, c'est des températures qui sont tellement extrêmes que la moindre erreur, à quelques minutes tout va geler, les poumons se gèlent, je respire de l'air tellement froid que le poumon se gèle, que les mains se gèlent, donc chaque geste est complexe. Donc oui, il faut avoir une vigilance totale et à cette température, avec la douleur et la fatigue, cette vigilance justement, elle est prise en défaut.
Pourquoi est-ce que vous allez sur cette glace fragile? Enfin, c'est une bêtise, il faut pas le faire, mais vous le faites quand même.
Non, mais c'est le seul passage à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il y a des forêts très denses autour, il y a des montagnes autour. Le seul passage, c'est cette rivière. Et effectivement, je suis à 3 jours de la fin. J'ai envie d'avancer parce que je sais que sinon je serai en retard et j'ai envie de terminer cette expédition. Je vois bien que c'est pas idéal comme condition, mais voilà, je suis poussé et c'est là l'erreur qu'on fait souvent. Quand on croit que, quand on est un peu pressé, quand on veut aller trop vite, quand on veut finir quelque chose, ben souvent on fait la petite erreur qu'il ne faut pas. Ça aussi, c'est des vraies leçons de vie. On doit toujours garder son sang-froid, sa vigilance, son écoute et surtout écouter les ressentis qu'on a. On ne les écoute pas assez, on n'écoute plus assez aujourd'hui. On confie souvent nos décisions à des systèmes, à des intelligences artificielles. Non, gardons cette capacité d'écouter nos sensations parce qu'elles nous disent toujours quelque chose qui est vrai.
Mais il n'y a pas de cabane de pêcheur. Vous ne l'avez pas vue, cette cabane de pêcheur. Vous vous retrouvez en statue de glace.
Non, s'il n'y avait pas cette cabane, j'aurais monté une tente, j'aurais mis mon réchaud à l'intérieur, j'aurais chauffé. Voilà, c'est à chaque fois on s'adapte.
Il y a une issue.
Il y a une issue. Il y a toujours une issue. Simplement, faut jamais l'oublier.
Mais je me demande si la conclusion de toute cette histoire, ça n'est pas que le corps humain est absolument formidable et adaptable à tout.
Le corps est formidable, mais le cerveau est extraordinaire. On a un organe d'une fabulosité hallucinante qu'il faut développer. Il faut pas hésiter à être curieux, à aller voir des choses nouvelles. Plus on se confronte à du nouveau, plus on développe nos cerveaux, mieux on sera capable de faire pratiquement n'importe quoi. Parce que quand le corps tombe, c'est le cerveau qui donne la force. Et là, croyez-moi, personne ne sait toute la possibilité qu'on a en nous.
Et le récit complet de cette expédition, bien, on peut le retrouver dans le livre de Christian Clos, qui a pour titre « Au cœur des extrêmes » aux éditions Robert Laffont. C'était On de la Traconte, que vous pouvez bien sûr réécouter en replay et en podcast sur europe1.fr. Demain, à 14h, Christophe Ondelat reviendra sur la disparition d'Anne Caudal en juillet 2011, près de Rennes, enceinte de 3 mois et demi, introuvable, même 5 jours après, malgré les recherches de 70 gendarmes, avec chien et hélicoptère. Dans un instant, il n'y a pas qu'une vie dans la vie sur Europe 1. Isabelle Morizet s'entretiendra avec l'actrice Juliette Binoche.